La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Agatha Christie, suite et fin de notre série consacrée à la reine du suspense. Nous avons parlé lundi de sa vie faite d'écriture et aussi de voyage en compagnie notamment de son second mari, l'archéologue Max Mallowan. Mais déjà avant cela, avec sa famille et sa mère en particulier, qu'il avait emmené faire ses débuts en Égypte. Une vie également marquée par le mystère de sa disparition durant quelques jours après une violente dispute qui signera la fin de son premier mariage, comme nous l'a raconté Marie-Françoise Bellac. Et puis au cours de notre deuxième épisode, François Rivière est revenu sur l'univers romanesque d'Agatha Christie et sur son métier d'autrice. Cette émission est à retrouver évidemment sur franceculture.fr ainsi que sur l'appli Radio France. Enfin hier dans l'épisode 3, nous avons couché Agatha Christie sur le divan de Sophie de Mijola qui a détaillé pour nous par exemple l'importance du narcissisme chez ses personnages tout comme l'influence de sa famille dans la psychologie de la romancière. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, après la chronique de Nathalie Frolov consacrée à l'adaptation du roman Mort sur le Nil au cinéma, nous serons en compagnie de Maxime Decoux pour évoquer la question de l'imposture chez la romancière et peut-être même plus largement dans la littérature. Tandis qu'en première partie, eh bien, c'est du droit et de la loi dans ces livres que nous allons parler. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
Prisoner will stand up. Members of the jury, are you all agreed upon your verdict?
We are.
Do you find the prisoner at the bar, Leonard Stephen Vole, guilty or not guilty of the murder of Emily Jane French?
Not guilty, my lord.
Leonard Stephen Vole, you have been found not guilty of the murder of Emily Jane French on October the 14th. You are hereby discharged and are free to leave the court.
Bonjour Nicolas Barait.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez peut-être reconnu cet extrait de Témoin à charge, pièce d'Agatha Christie, adaptée au cinéma par Billy Wilder. C'est un film que vous avez sans doute regardé, tout comme vous avez sans doute lu la pièce.
C'est cela.
Vous l'avez fait parce que vous êtes maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'université de Pau et des Pays de la Dour et que vous publiez ces jours-ci un essai sur Agatha Christie et le droit, sous-titré donc « Le droit apprivoisé », c'est aux éditions Classique Garnier. Alors c'est d'autant plus intéressant de vous avoir à distance aujourd'hui qu'on sait que la romancière a fait un séjour à Pau, où elle a passé quelques mois avec ses parents à la fin du 19e, dans cette ancienne capitale du Béarn, qui était alors un lieu de villégiature cosmopolite, particulièrement apprécié de la bonne société anglaise, depuis qu'un médecin écossais du nom d'Alexander Taylor y avait vanté la douceur du climat. Est-ce que c'est pour cette raison d'ailleurs que vous vous êtes intéressé à cette écrivaine, ou cela n'a rien à voir, Nicolas Barait?
Alors effectivement, il existe un lien entre Poe et Agatha Christie, qu'on retrouve d'ailleurs dans un de ses romans qui s'intitule Portrait inachevé, qu'elle a signé Mary Westmacott. Si vous le relisez, vous verrez au début que le personnage passe par Poe. et qu'effectivement, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais effectivement, il y a une certaine ressemblance entre le climat britannique et le climat palois, en ce sens qu'il y pleut beaucoup. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, il ne pleut pas, beaucoup, mais la pluie est le point commun, je pense. L'intérêt qu'il y a pour les Anglais, c'est aussi de voir les Pyrénées et de voir les montagnes.
Ah oui, mais alors justement, il paraît qu'elle a été assez déçue de voir les Pyrénées.
Oui, il y a cette phrase dans son autobiographie où elle dit « Je m'attendais à des montagnes magnifiques, remarquables, et j'ai été très déçue. » Elle a dû tomber un jour où les nuages dissimulaient le pic du Midi, je pense.
Mais oui, parce que quand même, les Pyrénées étaient très beaux. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à cette autrice, alors que vous êtes juriste et que donc, a priori, ça n'est pas votre champ d'investigation habituel?
Alors, effectivement, ce n'est pas un champ d'investigation classique pour les juristes, mais de plus en plus se développent des études de droit et littérature, c'est-à-dire de recherches croisées entre la matière juridique et la matière littéraire pour essayer de voir comment ces deux champs qui a priori sont séparés peuvent se connecter. Et pour ma part, comme beaucoup de vos auditeurs, j'ai lu Agatha Christie quand j'étais plus jeune. Et le droit m'avait pas forcément marqué à ce moment-là, mais parce que je n'étais pas encore juriste. Et puis, étant devenu juriste, j'ai relu Agatha Christie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de règles de droit, de mécanismes juridiques, d'institutions juridiques qui étaient présents dans les romans d'Agatha Christie. Et je me suis mis à les relire de manière un peu obsessionnelle, c'est-à-dire en relevant à chaque fois tout ce qui relevait du droit. Et le résultat et le fruit de cette obsession, ben, c'est cet ouvrage en fait sur le droit chez Agatha Christie.
Oui. Alors quel regard la romancière porte-t-elle d'abord sur l'institution judiciaire? Est-ce que vous diriez que c'est un regard révérencieux ou au contraire plutôt assez distant, Nicolas Barreit?
Alors, Agatha Christie, elle évoque bien évidemment l'institution judiciaire. Il y a beaucoup de procès dans son œuvre, et l'extrait que vous avez passé de témoin à charge en témoigne. Elle était très intéressée par le procès, et en même temps, on se rend compte qu'elle ne fait pas totalement confiance à l'institution judiciaire, en ce sens où elle considère que la vérité judiciaire n'existe pas, d'une certaine manière. Mmh. Et ces héros, que ce soit Hercule Poirot ou Miss Marple, ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce ne sont pas des policiers professionnels, bien au contraire, ce sont des amateurs.
Ce sont peut-être même des imposteurs, comme on le verra dans la seconde partie de cette émission.
Oui, peut-être.
Je vous
laisse
poursuivre.
Et on a finalement cette idée que c'est à côté de l'institution que la vérité peut apparaître. C'est une idée centrale chez Agatha Christie, et c'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le roman policier anglais de l'époque. C'est une manière de critiquer l'institution judiciaire aussi.
Est-ce que ça signifie qu'il y a un certain dédain d'Agatha Christie pour l'institution judiciaire? En tout cas, ces personnages, parfois, ont l'air de regarder un petit peu de haut cette chose très étrange, dit Hercule Poirot, qui est la justice.
Alors, du dédain ou de... Peut-être que le mot dédain est un petit peu fort, en tout cas, une espèce de désillusion. Si vous prenez les policiers chez Agatha Christie, pensez à l'inspecteur Japp. C'est pas un policier très intelligent, c'est quelqu'un qui a besoin de Poirot pour trouver la solution. Il y a aussi des exemples où ce sont des erreurs judiciaires qui sont causées par l'institution. Donc il y a quand même cette idée que la justice existe, mais cette justice humaine n'est peut-être pas suffisante. Et il faut peut-être en appeler à une autre forme de justice supérieure.
Oui. Et vous dites aussi que Miss Marple concède qu'elle a toujours trouvé ses affaires juridiques un peu trop mystérieuses pour elle, et pourtant c'est bien la reine de l'élucidation des mystères. Est-ce que Agatha Christie admet elle-même sa connaissance ou au contraire sa méconnaissance en matière juridique, ou cherche-t-elle à nous faire croire qu'elle connaît parfaitement tous les rouages juridiques du droit anglais?
Le rapport d'Agatha Christie à la chose juridique, au droit, est assez ambivalent en réalité, parce que elle le dit même dans son autobiographie, elle ne comprend pas le droit, elle ne connaît pas le droit, elle en a peur d'une certaine manière, et dans le même temps, elle est fascinée.
Pourquoi
par ce
en
phénomène
a-t-elle
juridique.
Peur?
Je pense que c'est lié à l'ignorance. Je pense qu'elle est dans cette posture de ce qu'elle ne connaît pas, elle en a peur. Et il y a une espèce de crainte, si vous voulez, au regard du droit. Mais on voit aussi qu'elle a travaillé, qu'elle s'est entourée de quelques juristes, et qu'elle a essayé de faire en sorte, en tout cas, que ces représentations de procès soient vraisemblables.
Oui.
même s'ils ne sont pas authentiques, mais qu'ils soient vraisemblables.
Alors, des juristes qu'elle ne se prive pas de caractériser physiquement, par exemple, nous apprenons l'homme de droit a une lèvre ourlée, qu'il est impassible, il est aussi décrit comme se gargarisant avec une phraséologie alambiquée. Tout cela n'a pas dû vous faire tellement plaisir à la lecture, Nicolas Barreit.
Ça fait partie des clichés qu'on retrouve du juriste et qu'on retrouve, même si on remonte un petit peu plus haut, jusqu'à Charles Dickens en réalité. Le juriste, c'est soit quelqu'un de très ennuyeux, soit quelqu'un de très calme, mais presque au sang-froid, mais au sens d'un reptile. C'est des images assez classiques qu'on trouve chez les juristes et qu'on retrouve chez Agatha Christie, en réalité. On est ici dans l'ordre du cliché.
Silence, please. Ladies and gentlemen, this is your host, Mr. Owen, speaking. You are charged with the following crimes. General Sir John Mandrake, that you did deliberately send your wife's lover, Lieutenant Arthur Masefield, to his death. Emily Brent, that you did cause and bring about the death of your young nephew, Peter Brent. Dr. Edward G. Armstrong, that through uncontrolled drunkenness you did kill Mrs. Mary Cleese, Prince Nikita Starlock, that you were guilty of the murder of Fred and Lucy Marlowe, Vera Claythorne, that you did murder your sister's fiancé, Richard Barclay, Judge Francis.
Alors, on entend ici un extrait des Dix Petits Indiens, adapté par René Clair, avec les accusations de Mr. Owen à l'encontre de chacune des personnes présentes dans la pièce. Ils sont accusés de divers crimes. Donc, on a un petit peu là une sorte de procès, mais un réquisitoire qui se ferait hors du tribunal, qui se ferait dans un cadre privé, Barreit.
Effectivement, dans ce roman... Mais on retrouve aussi la même idée dans le crime de l'Orient Express, ainsi que dans Mort sur le Nil. Dès lors que les personnes se trouvent loin de la justice officielle, on essaie quand même, d'une certaine manière, de reconstituer une procédure. Et on va trouver Poirot qui va se comporter comme un juge, comme un accusateur. On va avoir des témoignages, on va avoir des éléments de preuve. On sent bien qu'il y a un besoin de procédure. Et ça, c'est peut-être une caractéristique de l'esprit anglais, c'est-à-dire que même quand on est loin de tout, même quand on est sur une île, bien, on essaie de faire les choses de la manière la plus juste, et la justice passe sans doute par une procédure, par une suite d'actes qu'il faut accomplir et qui permettront peut-être d'aboutir à la vérité.
Donc je vous laisse caractériser l'esprit anglais comme vous pensez qu'il peut être. Est-ce que on n'a pas l'impression ici quand même d'un jeu avec le droit, d'un jeu avec d'une mise en scène aussi presque du procès qui est reprise à son compte mais d'une autre manière par Agatha Christie.
Le jeu c'est une notion importante chez Agatha Christie. Dans tous les sens, d'ailleurs, le jeu au sens ludique, c'est-à-dire comme divertissement, et souvent il y a cette idée de jeu avec le lecteur. Toutes les personnes qui ont lu Agatha Christie ont essayé de trouver l'assassin avant la fin. Il y a cet aspect de jeu avec le lecteur, et jeu aussi, et peut-être que votre invité suivant en parlera, jeu au sens d'une combinatoire, c'est-à-dire le fait qu'on peut avec les mêmes éléments, constituer plusieurs intrigues. Mmh. On trouve vraiment cette idée-là chez Agatha Christie. Elle a vraiment un rapport ludique à l'égard du droit. C'est-à-dire que la règle de droit, une fois qu'on la connaît, une fois qu'on la maîtrise, on peut essayer de la tourner à son compte. Et il y a une espèce, chez Agatha Christie, de prime à la personne intelligente, c'est-à-dire à la personne qui arrive à utiliser la règle pour elle-même.
Donc il s'agit de ruser. Les personnages sont des joueurs.
C'est ça, ils sont habiles, ils sont rusés. Il y a cette idée-là d'habileté, effectivement.
Et là, c'est une différence que vous faites avec Kafka, l'auteur du procès, où
c'est ça.
On est dans un rapport très différent. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point, Nicolas Barreit?
Oui, effectivement, Agatha Christie, je la considère comme l'anti-Kafka. C'est-à-dire qu'Agatha Christie voit la loi plutôt comme un jeu, c'est-à-dire dans une vision assez positive. Alors que chez Kafka, c'est pas du tout ça. Hein. Si vous avez lu le procès, si vous avez lu notamment un chapitre du procès qui existe en nouvelle séparée qui s'appelle Devant la loi, on est confronté à un personnage qui voudrait rentrer dans une espèce de château qui en est empêché par un gardien. Ce gardien, c'est le gardien de la loi. Et il explique à ce personnage qu'il ne pourra pas rentrer que si de toute façon il passe la première porte. Il y a ensuite une autre porte avec un autre gardien, et ainsi de suite à l'infini. Et donc chez Kafka, il y a cette idée très profonde que la loi est inaccessible, que la loi c'est quelque chose que l'on ne peut jamais atteindre. Au contraire, chez Agatha Christie, la loi non seulement elle est accessible, mais on peut s'en servir. Donc il y a vraiment deux visions du droit, une vision positive chez Agatha Christie, une vision très négative chez Kafka, qui peut être intéressant justement de confronter.
Et vous parlez même d'un apprivoisement du droit chez Agatha Christie, alors que chez Kafka, on est dans le combat finalement avec cette loi, ce droit qui est insaisissable.
Exactement, c'est-à-dire que l'idée d'apprivoisement vient d'Agatha Christie elle-même, parce qu'un de ses personnages explique que la loi, c'est un animal capricieux. C'est quelque chose de vivant, quelque chose d'imprévisible, mais comme c'est un animal, peut-être qu'on peut le domestiquer, peut-être qu'on peut l'apprivoiser, vivre avec. Chez Kafka, c'est pas ça. Chez Kafka, la loi, c'est presque l'ange avec lequel on se bat, et l'ange qui va nous battre de toute façon. Le combat est perdu d'avance d'une certaine manière, donc c'est pas du tout le même rapport entre ces deux auteurs.
Et Agatha Christie vous semble plus proche de la réalité. La loi dans la vie est un animal capricieux.
La loi peut être un animal capricieux. La loi peut être un animal capricieux. Tout le monde ne connaît pas la règle de droit. Peu de gens arrivent à jouer avec, bien évidemment. Et souvent, d'ailleurs, les gens ont une vision kafkaïenne de la loi. C'est-à-dire qu'il y a un côté très labyrinthique, très inextricable. Je suis pas sûr que tout le monde partage cette vision positive du droit qu'a Agatha Christie, mais c'est en tout cas ce qu'on retrouve chez elle.
Hercule Poirot cheminait derrière la haute silhouette de Gudgeon. Ils avaient traversé une grande pelouse, puis un jardin semé de rocailles, et suivaient un sentier serpentant par la châtaigneraie, quand le détective entendit un petit cri qui l'intrigua, parce qu'il lui sembla impossible, sur le moment, de le cataloguer. Simple cri de surprise ou cri d'horreur, il n'aurait su le dire, en tout cas un cri étrange et inattendu. La lisière du bois atteinte, Gudgeon s'effaça en s'inclinant pour faire passer Poirot. En même temps, il se raclait la gorge pour annoncer l'invité sur le ton convenable. Il se redressa, mais les mots lui restèrent dans la gorge et seuls quelques sons qui ne ressemblaient à rien sortirent de sa bouche. Poirot, dont le regard venait de découvrir la piscine, exprima ses sentiments du moment par une grimace significative. Vraiment, c'était trop. Il attendait autre chose des enquêteurs. Un chemin interminable, une maison vide, et maintenant ça? Ces Anglais avaient de l'humour une bien singulière conception s'ils s'imaginaient qu'ils trouveraient ça drôle. Il lui donnait seulement l'envie de s'en retourner. La mort ne l'avait jamais amusé, et il ne goûtait pas du tout la macabre comédie que ces gens avaient montée à son attention. Car il ne s'agissait pas d'autre chose. Un cadavre, dont l'attitude semblait avoir été soigneusement étudiée, gisait au bord de la piscine. On avait peint sur le ciment une tache rouge qui s'allongeait en petites rigoles jusqu'à la surface de l'eau. Près de la victime, un homme à cheveux blonds, une femme se tenait debout, un revolver à la main. Elle avait le regard égaré et stupide. Les autres acteurs, manifestement arrivés par des sentiers différents, étaient à une certaine distance. Il y avait une grande jeune femme qui portait un panier plein de têtes de dahlia, un homme en costume de chasse, le fusil à la bretelle, et enfin, Lady Hancattle avec un panier empli de hauts bras. Tout cela avait quelque chose de calculé et d'artificiel. Poirot poussa un léger soupir. Enfin, qu'attendait-on de lui? Ces gens espéraient-ils qu'il allait faire semblant de croire à ce crime? Devait-il se précipiter pour examiner le cadavre, ou bien, avec un sourire aimable, aller féliciter Lady Hancattle de cette mise en scène réussie?
La Compagnie des œuvres sur France Culture, et cet extrait du Vallon où le meurtre semble être mis en scène, c'est en tout cas ce que croit Hercule Poirot. Qu'en pensez-vous, Nicolas Bareil, de cette idée de mise en scène et de théâtre même, incarné par ce grand acteur qu'est Hercule Poirot?
La vision qu'a Agatha Christie de la justice s'apparente à une vision finalement assez classique depuis la Grèce ancienne, c'est-à-dire que la justice est une forme de spectacle. La justice, c'est du théâtre. Et dans la justice, dans les palais de justice, il y a des mises en scène. Les avocats, les magistrats ont des costumes, adoptent des postures, utilisent des formules particulières. On est vraiment dans une mise en scène au service de la vérité. Et au théâtre, on est exactement dans cette idée-là. Ce qui fait que dans les œuvres d'Agatha Christie, bien souvent, l'un est pris pour l'autre, c'est-à-dire que le procès ressemble au théâtre, le théâtre ressemble au procès. Et Hercule Poirot est souvent le metteur en scène. C'est le metteur en scène. Au service de la vérité, là encore, pensez à toutes ces séquences finales dans chacun des romans, où il rassemble tous les suspects, ces fameuses réunions, où il rassemble tous les suspects, où il les accuse d'ailleurs les uns après les autres, si bien que le lecteur ne sait plus trop à quel sens se vouer, et à la fin, il révèle la vérité. Mmh. Il aime beaucoup ce spectacle, lui-même le dit, il dit qu'il a besoin de spectateurs. Donc on sent bien qu'il y a un vrai plaisir théâtral à mettre en scène l'apparition de la vérité, et qu'on retrouve partout, absolument partout dans son œuvre, avec Hercule Poirot, avec Miss Marple, peu importe les personnages, il y a vraiment une équivalence entre le théâtre et la procédure chez Agatha Christie.
Et puis il y a peut-être le Deus Ex Machina aussi, qui est typique du théâtre, dans la révélation du meurtrier par Hercule Poirot.
Oui, on peut avoir aussi cette dimension-là de quelqu'un venant de l'extérieur qui apporterait la vérité. Il faut toujours garder à l'esprit qu'Hercule Poirot est un étranger en Angleterre. C'est un étranger, il est belge. Il est d'ailleurs souvent méprisé pour ça, c'est-à-dire que les personnages d'Agatha Christie, les personnages anglais, le considèrent comme un Français, ce qui pour lui est une insulte, et ce qui montre bien que pour les Anglais, Français, Belges, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire que ce sont des personnages continentaux qui ne leur ressemblent pas. Hercule Poirot, c'est l'étranger, c'est celui qui vient de l'extérieur, mais qui amène quand même la vérité, et on le voit de la manière la plus éclatante dans le dernier roman, dans Poirot quitte la scène, où là, d'une certaine manière, Poirot se prend pour Dieu. Mmh. Il se prend pour Dieu parce que c'est lui qui va amener la justice, finalement, dans cette affaire.
Donc, il y a la justice humaine, il y a la justice divine qui est présente aussi, et entre les deux, il y a Hercule Poirot, alors.
Moi, j'aurais même tendance à dire qu'Hercule Poirot est du côté de la justice divine, d'une certaine manière, d'une espèce de justice surnaturelle qui dépasserait les institutions humaines, et qui se rattacherait à cette idée aussi qu'Hercule Poirot est présenté comme un catholique fervent, et qu'il est très attaché à sa religion, et plus les romans vont avancer, plus on aura cet aspect religieux. Je suis assez convaincu que pour Agatha Christie, Hercule Poirot, c'est une forme de manifestation divine, comme Miss Marple est également une forme de manifestation divine, et là, elle le dit très clairement, hein, dans le roman qui s'appelle Némésis. Némésis, c'est une déesse grecque qui représente la justice, mais dans son aspect vindicatif, dans son aspect de vengeance. Miss Marple, c'est Némésis aussi. C'est une déesse de la justice et d'une justice terrible. Moi, j'ai quand même le sentiment que chez Agatha Christie, les justiciers ont cette dimension divine ou à tout le moins surnaturelle.
Du coup, on peut presque se demander si Agatha Christie estime que la justice doit passer par les tribunaux, par la justice des hommes. Et est-ce que parfois il ne suffit pas de se faire justice soi-même ? Est-ce que ça n'est pas ça finalement qui est le plus important quand on est sûr d'avoir raison ? C'est le cas par exemple avec le crime de l'Orient Express où on est au fond au-delà du bien et du mal et on se fait justice entre nous.
C'est une question très compliquée. Je ne suis pas sûr qu'Agatha Christie aille jusque-là et qu'au contraire, elle est attachée à l'idée qu'il doit y avoir quand même une justice et que la vengeance n'est pas de la justice. Il y a cette idée qu'il ne faut pas, il faut pas se faire justice soi-même. Et je trouve qu'on peut comparer Agatha Christie et Conan Doyle, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ça ne le gêne pas de faire justice lui-même. De frapper des suspects, des choses comme ça, ça le gêne pas trop. Chez Agatha Christie, j'ai quand même le sentiment qu'il faut, d'une certaine manière, que la justice passe, que la justice humaine ou justice divine, disons, mais que la vengeance est quelque chose à éviter.
Alors, quels sont les mobiles, Nicolas Barrette, qui font qu'on passe au meurtre? À la fin de votre livre, vous évoquez les testaments, qui sont un mobile qui revient assez souvent. Vous parlez non pas de crime et châtiment, mais de crime et testament. Il y a beaucoup de types différents de testateurs chez Agatha Christie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu lesquels?
Chez Agatha Christie, il y a ce que j'appelle une obsession testamentaire, et c'est vraiment une obsession parce que quand on compare avec les autres auteurs de la même époque, on évoque les testaments chez les autres, mais pas autant et avec autant de détails. J'ai eu le sentiment que c'était quelque chose qui résonnait chez Agatha Christie, même à titre personnel. Chez Agatha Christie, les gens font beaucoup de testaments et changent assez souvent de testament. Alors on peut changer son testament parce qu'on veut punir quelqu'un. On peut faire un testament parce que dans le testament, on va mettre des clauses qui vont d'une certaine manière emprisonner ou contraindre ses légataires. Par testament, on va pouvoir récompenser telle ou telle personne. On sent qu'il y a derrière le testament l'idée d'une volonté qui va aller au-delà de la mort, d'une volonté qui aura prise sur les vivants au-delà de la mort. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fasciné Agatha Christie. Et souvent, ce testament qui transmet du patrimoine, eh bien, on essaie de faire en sorte qu'il soit en notre faveur, en tout cas les criminels. Et bien souvent, le mobile successoral, le mobile testamentaire, est un mobile au cœur de son œuvre.
Oui. Donc là, on est plutôt du côté des notaires davantage que du côté du juge. Notaire toujours, la vie conjugale. Il y a tout un chapitre de votre livre, Nicolas Barrette, qui s'appelle « Scène de la vie conjugale ». Vous reprenez le titre du film de Bergman. Et vous y évoquez là la question des rapports parfois brutaux dans le couple chez Agatha Christie. Est-ce qu'il y a des infractions sexuelles chez Agatha Christie, ou est-ce qu'au contraire elles sont plutôt tues?
Alors, ce qui est intéressant, mais c'est sans doute lié à l'époque aussi, l'infraction sexuelle, le viol, l'agression sexuelle n'apparaît pas en tant que tel dans l'œuvre. Les crimes qui sont commis sont généralement des crimes de sang, ce sont des meurtres. Alors, toutes les formes de meurtres sont bien sûr envisageables. Elle a plutôt une préférence pour le poison quand même. Mais toutes les formes de meurtre sont envisageables. Le viol, on ne le voit quasiment jamais. Et quand c'est évoqué, c'est à peine évoqué, presque pour dire que les victimes, que les femmes qui se plaignent de viol sont des menteuses d'une certaine manière. Mm-hmm. Et cette idée qu'il faut taire les infractions sexuelles est à relier, à mon sens, avec l'idée que c'est la sexualité qu'il faut taire. Et que si on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas non plus d'infraction sexuelle. C'est de ça dont il ressort chez Agatha Christie. Mais dans le même temps, la sexualité apparaît au travers du mariage, parce que l'institution matrimoniale est très importante chez elle. La preuve en est, c'est que dans de très nombreux romans, l'intrigue s'achève par un mariage annoncé ou par un mariage effectif. Mais bien souvent, on finit sur cette idée que, après un crime, après un meurtre, pour que l'ordre revienne, il faut se marier.
Donc ça, c'est un rapport au droit quand même qui est très présent et qui est un peu normatif d'ailleurs de la part d'Agatha Christie.
Oui, effectivement, c'est l'idée que les relations de couple n'ont de sens, voire n'ont de légitimité, que si elles sont prises dans le vêtement juridique, que si ce sont des mariages, et donc le concubinage n'est pas intéressant en tant que tel, ou ne devrait même pas exister. Mmh. Et ça, c'est assez propre à l'époque, que ce soit côté Royaume-Uni ou que ce soit côté français d'ailleurs. Hein, on a eu pendant très longtemps l'idée que la seule forme de couple possible, c'était le mariage.
Et du coup, pas de divorce chez Agatha Christie non plus?
Si, des divorces. Il y a des divorces. Il y a d'abord son propre divorce, puisqu'Agatha Christie a divorcé. Et donc, elle a été confrontée au divorce. Et elle explique d'ailleurs dans son autobiographie que ça a été un moment difficile pour elle. Qu'elle a vécu comme une espèce de forme de violence, d'ailleurs, juridique ou institutionnelle. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle se sert de l'impossibilité de divorcer pour construire une intrigue. Et le roman le plus caractéristique à cet égard, qui est un roman absolument remarquable, c'est « Drame en trois actes », qui est totalement construit autour d'un personnage qui ne peut pas divorcer. Et c'est cette impossibilité de divorcer qui va l'amener à passer à l'acte, et il va commettre trois meurtres d'ailleurs dans ce roman, ce qui est une manière assez subtile et assez discrète pour Agatha Christie de critiquer la législation de son époque, parce qu'à l'époque où elle écrivait, le divorce était très difficile à obtenir en Angleterre. Hein. C'était un divorce pour faute et pour faute d'adultère, à tel point qu'on voyait en pratique des mises en scène qui étaient faites où on faisait semblant de commettre un adultère pour obtenir le divorce. C'était une espèce de divorce par consentement mutuel, mais officieux, caché, en réalité. Et ça, on le retrouve chez Agatha Christie, comme on le retrouve d'ailleurs dans la littérature un petit peu plus générale, dans les années 20-30 au Royaume-Uni.
Bon, heureusement, Hercule Poirot est là pour faciliter, non pas les divorces, mais en général les mariages, puisque à plusieurs reprises, il intervient personnellement pour arranger certaines unions, décidément. Il sait tout faire avec ses petites cellules grises. Merci beaucoup, Nicolas Bareil, de nous avoir parlé aujourd'hui du droit chez Agatha Christie, à partir de votre livre, qu'on peut se procurer aux éditions Classique Garnier, sous le titre « Agatha Christie, le droit apprivoisé ». Dans quelques minutes, nous parlerons de la question de l'imposture chez l'autrice de Mort sur le Nil. Ce sera juste après notre pas de côté avec la traditionnelle chronique du jeudi.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique pour laquelle nous avons le plaisir de vous retrouver, Nathalie Frolov. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Et vous nous parlez aujourd'hui justement de son livre Mort sur le Nil et de son adaptation cinématographique.
Oui, alors dans l'émission de lundi, Marie-Hélène Bellac a évoqué avec vous le tropisme d'Agatha Christie pour l'Égypte. Mort sur le Nil en est sans doute la plus belle incarnation. Ce roman saisissant permet au lecteur de retrouver Hercule Poirot, des personnages hauts en couleur, comme toujours dans ses romans, dans un lieu confiné, en l'occurrence un bateau qui remonte le Nil, où va se produire un enchaînement de meurtres sur fond d'amour, d'argent. On sent à la lecture en fait le plaisir qu'a éprouvé Agatha Christie à situer son roman en Égypte et à jouer en fait avec tout ce que ce pays évoque. Alors il y a bien sûr tout d'abord des petites scènes d'exposition en Angleterre. On va apprendre qu'une riche et belle héritière, Lynette, à qui tout réussit, va épouser un inconnu, Simon Doyle. À l'origine, il était promis à l'une de ses amies désargentée, Jackie. Donc Lynette et Simon décident de partir pour l'Égypte en lune de miel. Mort sur le Nil vient alors s'inscrire dans toute une série d'œuvres qui mettent aussi en lumière la fascination qu'exerce ce pays, ses mystères, son histoire. Si l'on ne s'en tient qu'à la période moderne, les livres qui racontent un voyage en Égypte sont extrêmement nombreux, au point que c'est devenu un genre littéraire en soi. Il y a une vraie passion de l'exotisme égyptien dans toute la littérature française depuis la fin du XVIIIe siècle, comme en témoignent entre autres, et je ne vais pas tout citer, les différents récits de Chateaubriand, de Flaubert, de Fromentin. Alors c'est intéressant parce que ces textes se nourrissent tous les uns des autres et rappellent qu'on ne peut aller en Égypte de manière un peu innocente sans marcher dans les pas d'illustres prédécesseurs. Nerval, par exemple, dans son voyage en Orient, remarque ainsi, sur un ton un peu amusé, je le cite, « J'ai peur de devoir admettre que Napoléon lui-même n'a vu les pyramides que de la plaine. Il n'aurait pas certes compromis sa dignité jusqu'à se laisser enlever dans les bras de quatre Arabes comme un simple ballot qui passe de main en main. » Et il se sera borné à répondre d'en bas par un salut aux 40 siècles, qui d'après son calcul le contemplait à la tête de notre glorieuse armée. Le voyage en Égypte devient donc nécessaire à la formation intellectuelle pour les peintres, pour les écrivains au XIXe siècle, mais nécessaire aussi à une élite anglaise et française qui souhaite ainsi se dépayser par faire une éducation. Je pense en particulier au très beau film de Nina Companese, Pique-nique chez Osiris, avec Marina Hans et Eric Ruff.
Mais Mort sur le Nil reste quand même un chef-d'œuvre, Nathalie Frolov, en quoi ?
Eh ben, c'est vrai que c'est un peu compliqué quand il y a toutes ces références derrière. Ça pourrait paraître un petit peu écrasant. Et puis, situer ainsi une nouvelle enquête d'Hercule Poirot en Égypte, ça pourrait sembler peut-être un peu convenu. En fait, il n'en est rien. Agatha Christie connaît très bien l'Égypte elle-même. Et elle y écrit d'ailleurs ce roman à Assouan, dans cet hôtel hors du monde qu'est le Hall de Cataract. Alors on sent vraiment ce plaisir qu'elle a à raconter cette histoire. On le voit dans un petit détail quand le couple d'amoureux dit au détour d'une phrase qu'ils sont d'abord passés par le Danieli à Venise avant d'arriver à Assouan. Comme si ici le voyage en Italie pouvait se conjuguer avec le voyage en Égypte, ce qui rend cette lune de miel absolument parfaite. Et puis cet hôtel, le Hall de Cataract, ses abords, ensuite cette croisière sur le Nil, ça représente bien tout le chemin charme de l'Égypte et ça participe au rêve d'un tourisme de luxe qu'on pourrait dire un peu suranné. Voilà. Mais ce qui m'a frappé en fait à la relecture de ce roman et puis en revoyant de nouveau le film, c'est finalement l'écriture elle-même, c'est la manière dont est construit en fait ce roman. C'est presque une structure très visuelle. On a des très courtes sous-parties à l'intérieur de chacun des chapitres et ça signale en quelque sorte des changements de scène et de personnages comme au théâtre. Et on a une très grande vivacité des dialogues qui permettent de peindre les personnages avec une grande efficacité. C'est vraiment frappant de voir à quel point on a un nombre incroyable d'adaptations filmiques des romans d'Agatha Christie et je pense que c'est vraiment dû à cette écriture très visuelle. On a l'impression d'avoir des scénarios à destination du cinéma. Et Mort sur le Nil, c'est très clair, ne fait pas du tout exception à la règle avec cette très belle adaptation de John Guillermin dans les années 70 qui met en scène un ensemble, une pléiade d'acteurs incroyables, Peter Ustinov, David Niven, Mia Farrow, Jane Birkin et même Bette Davis. On dirait en fait que par une sorte d'économie des portraits physiques de ces personnages, au-delà de quelques rapides remarques, Agatha Christie elle invite les comédiens les plus divers à s'emparer de ces personnages. L'exemple parfait, c'est aussi bien sûr les multiples adaptations du Crime de l'Orient Express, où tant de comédiens célèbres ont pu jouer leur rôle comme des morceaux de bravoure. Alors l'adaptation de Mort sur le Nil témoigne aussi d'un réel plaisir à marcher dans les pas d'Agatha Christie, puisque le film a de même été tourné dans cet hôtel où se situe l'histoire, et nous fait découvrir aussi le site d'Abou Simbel. Donc finalement, grâce à ce pays qui est complètement surdéterminé de mystères et d'énigmes, le lecteur et le spectateur se laissent porter par les analyses psychologiques successives, les petits indices que décèle dès le début Hercule Poirot, et puis par une petite phrase écrite en français dans le livre, petite phrase qu'il répète plusieurs fois, « une qui aime et un qui se laisse aimer ». Donc au-delà du contexte, de l'intrigue, c'est alors cette petite phrase qui va orienter la lecture, qui va créer un effet de réel. Et on peut dire que Mort sur le Nil, in fine, c'est plutôt un roman total qui échappe en quelque sorte au genre du polar en conjuguant monde proustien, critique de l'argent facile et amour fou.
Merci beaucoup Nathalie Frolov pour cette analyse qui donne envie à la fois de relire le livre et d'aller voir les adaptations de Mort sur le Nil. On vous retrouve bientôt à ce micro pour une nouvelle carte blanche. Sur France Culture et dans la compagnie des œuvres où il est question de l'écrivaine anglaise Agatha Christie. Nous terminons cette série en compagnie de Maxime Decoux sur le thème de l'imposture et des imposteurs dans ses romans. Alors attention pour ceux qui n'auraient pas encore lu Ils étaient 10, nous allons diffuser à présent une lecture qui en révèle la chute.
Non, ne craignez rien, chère mademoiselle Clinton, votre affaire sera réglée ici.
Vous avez cru que j'étais mort. Mais j'avais en effet persuadé le docteur Lewis de vous en convaincre. Je lui avais raconté qu'ainsi je serais plus libre pour vous surveiller et trouver l'assassin. Il a accepté. Il avait tellement peur. Et puis ce matin, quand il est venu à mon rendez-vous sur la falaise, je n'ai eu qu'à le pousser. Adieu, docteur Lewis. Voyez-vous, mademoiselle Clayton, à force de juger des assassins, le désir de tuer a grandi en moi. Mais pas tuer en envoyant la mort des criminels sans intérêt, comme je le faisais dans l'exercice de mes fonctions. Il me fallait plus. Beaucoup plus. Et je suis un magistrat respectable, honoré de tous. Et j'ai avant tout le souci de la justice. Messieurs les jurés, vous déciderez en votre âme et conscience. Il me fallait des coupables. Vous l'étiez tous les neuf. Encore que Lombard et vous méritiez l'acquittement. Mais aucun de vous n'avait été jugé. Vous aviez tous réussi à passer entre les mailles de la justice. Je tenais donc un beau gibier de potence. Tué, oui, par plaisir, par devoir même. en frappant des criminels. Non, silence, silence, huissier, faites évacuer la salle.
Eh bien, voilà un bon exemple d'imposteur, ce juge Wargrave dans Ils étaient 10, qui de par son métier incarne l'autorité et la probité, alors que, eh bien oui, c'est lui le meurtrier. Voilà qui nous fait d'ailleurs une excellente transition entre notre sujet de première partie sur la justice et le sujet de ce dernier moment consacré donc à l'imposture avec vous, Maxime Decoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille où vous enseignez la littérature, également auteur d'essais très originaux comme celui intitulé « Qui a peur de l'imitation ?» ou encore un autre appelé « Pouvoir de l'imposture » justement, que vous avez publié tous les deux aux éditions de Minuit. Alors quel est l'enjeu pour vous de ce questionnement sur l'imposture en littérature et comment le raccrochez-vous finalement à Agatha Christie ?
Alors, peut-être qu'on peut commencer par repartir de la structure de base des romans policiers d'Agatha Christie, puisqu'elle utilise un genre principalement, mais elle va le modifier en permanence, qui est le genre du roman à énigme. C'est-à-dire que c'est un roman qui a la particularité de reposer sur un mystère initial, et l'ensemble de la narration vise à raconter l'enquête du détective, donc la manière dont un savoir va se constituer, dont un mystère va être levé et dont une vérité va finir par s'imposer. Mmh. Et ça, on le voit très bien avec ces grandes réunions là qui ont été évoquées juste avant, ces grandes réunions finales qu'organise Hercule Poirot, où il met en spectacle le triomphe du savoir
et la vérité qui éclate,
dont il est lui l'unique porte-parole. Et si vous voulez, donc la conception même du roman policier, c'est ce triomphe de la vérité. Or, les moyens mis en œuvre dans l'écriture, c'est une conception complètement différente du récit, parce que le récit ne cesse de vous induire en erreur, de vous leurrer. Un roman policier repose, et se caractérise vraiment par sa mauvaise foi, puisqu'il il dissimule les indices, l'idée étant que le lecteur ne doit pas être en mesure de découvrir la vérité avant la fin. Il y a donc, et puis alors ça crée une sorte de surenchère entre le texte et le lecteur, puisque le lecteur sait que le texte lui ment, il va donc chercher non pas parmi les indices les plus évidents, parmi les coupables les plus évidents, et l'auteur sait lui-même que le lecteur va être conduit à cette attitude, d'où l'invention de dispositifs de plus en plus sophistiqués pour prendre au piège le lecteur afin de le surprendre. Et c'est ce qui explique la force d'Agatha Christie, c'est cette grande inventivité qu'elle a eue dans les différents dispositifs. Alors on vient d'écouter un extrait de Ils étaient 10, anciennement nommé Diptynègre. Là-dedans, on a effectivement c'est un des romans les plus célèbres justement parce qu'il repose sur une forme d'imposture qui est maintenu tout au long du texte et de ce juge qui est finalement celui qui est théoriquement le représentant de la justice et qui se révèle être le meurtrier. On a évoqué dans les émissions précédentes, vous avez aussi évoqué le meurtre de Roger Ackroyd, puisque là encore Agatha Christie trouve le moyen finalement de placer son meurtrier là où personne ne s'y attend, avec une des figures d'autorité qui est là, la figure d'autorité sur le récit, qui est le narrateur. Et donc, on a en permanence cette lecture, cette marche vers la vérité, et qui repose pourtant sur des leurres perpétuelles et une mauvaise foi du texte. Et c'est ça qui fait vraiment la singularité de l'expérience de lecture, qu'est la lecture d'un roman policier, et en particulier d'un roman policier d'Agatha Christie.
Oui, parce que au fond, la vérité telle qu'elle est présentée comme très logique dans un roman policier et dans un roman d'Agatha Christie, en réalité, elle ne tient pas debout et tout le monde sait que cette vérité ne tient pas debout, sinon il n'y aurait pas de plaisir à la lecture.
Oui, tout à fait. On peut considérer finalement, il y a de fortes proximités, si vous voulez, entre le détective et le romancier. Parce qu'il y a une concurrence, déjà il y a une concurrence entre le lecteur et le détective pour trouver la vérité, qui reflète la concurrence qu'il y a entre le lecteur et le texte ou l'auteur pour découvrir cette vérité. Et en même temps, quand le détective révèle la vérité, c'est véritablement un récit qu'il nous donne, récit qui est comme un récit d'un conteur, qui est une sorte de fiction, si ce n'est qu'il se trouve que cette fiction qu'invente en quelque sorte le détective, elle se trouve concordée avec tous les éléments, ou presque tous, du texte. Donc il y a bien une parenté. Hercule Poirot est finalement un grand raconteur d'histoire. On a le sentiment que quand il sort la vérité de son chapeau, il réalise véritablement une activité de romancier. Et d'ailleurs, Agatha Christie, à plusieurs reprises, suggère des parentés plus ou moins discrètes entre l'enquêteur et l'écrivain. Par des indices plus ou moins visibles, alors ne serait-ce que dans certains romans, l'enquêteur, alors notamment Poirot, découvre la vérité dans des textes. Par exemple, dans Cinq petits cochons, il lit les témoignages des différentes personnes qui étaient présentes au moment du meurtre. Dans un texte comme 1, 2, 3, c'est dans un roman policier qui est lu par le groom à l'intérieur de l'intrigue qu'il trouve la vérité. Et puis on a ce personnage aussi qui est récurrent, qui revient dans plusieurs romans, qui est le personnage d'Ariane Oliver, qui est une amie d'Hercule Poirot et qui l'aide dans certaines de ses enquêtes et qui est justement une romancière qui écrit des romans policiers. Et donc là on voit bien, si vous voulez, le parallèle entre le procédé d'écriture, d'invention et l'enquête que mène le détective.
Ce qui est extraordinaire avec Agatha Christie, quand on lit les 85 romans, c'est qu'on se rend compte qu'elle a épuisé toutes les possibilités. Je crois qu'elle a vraiment, de façon méticuleuse, envisagé toutes les possibilités de tromper un lecteur. Comme une sorte de combinatoire qu'elle aurait exploré de façon minutieuse. Et c'est en ça que son œuvre est pour moi tout à fait remarquable et donne à penser. C'est grâce à cette méticulosité par laquelle elle explore toutes les possibilités.
Connu Maxime de Coupierre, Bayard, l'auteur de Qui a tué Roger Ackroyd, qui souligne à quel point, au fond, il y a un rapport entre les mathématiques et les multiples combinatoires de tous les crimes possibles qui ont été comme ça investigués, creusés par Agatha Christie.
Oui, effectivement. Alors, c'est justement ce qui fait certainement l'originalité, la force des textes d'Agatha Christie. C'est pas tellement leur style ou la manière dont ils sont écrits que cette attention aux structures et aux variations et à l'invention permanente qu'elle peut y apporter. Si on prend simplement, déjà, il y a une structure de base qui est celle du meurtre en chambre close, par exemple. Eh bien, c'est-à-dire quand un meurtre est produit à l'intérieur d'une pièce entièrement fermée, donc qui a donné lieu à un certain nombre de textes célèbres, Agatha Christie redéveloppe cette situation avec des variations assez intéressantes. Par exemple, dans Dictynègre, c'est une sorte de meurtre en chambre close, mais une chambre close beaucoup plus grande, puisque c'est l'île du Nègre sur laquelle sont enfermés les invités, donc cette île dont ils ne peuvent pas s'échapper, qui devient cette chambre close. On a évoqué Mort sur le Nil, c'est aussi une sorte de huis clos à l'intérieur du bateau. Dans Le Crime de l'Orient Express, c'est le train. Donc ce sont des lieux plus ou moins ouverts, plus ou moins complexes, plus ou moins fermés.
Un peu comme des laboratoires à l'intérieur desquels on peut tester toutes les combinaisons possibles.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis elle travaille aussi, donc évidemment, sur l'identité variable des coupables, jusqu'à incriminer ce qui se tient au-dessus de tout soupçon, dans le meurtre de Roger Ackroyd, le narrateur. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui a vraiment interpellé une grande partie des écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment Alou Lipo, comme Georges Perec, comme Jacques Roubaud, ou dans le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Michel Butor. Par exemple, François Le Lyonnais avait recensé toutes les configurations possibles de l'identité du meurtrier, et il avait donc inclus à l'intérieur le narrateur. C'est une question qui est très récurrente, hein, le narrateur coupable, depuis qu'Agatha Christie a rendu cette situation célèbre. Il y a peut-être une situation que souligne d'ailleurs François Le Lyonnais et qu'Agatha Christie n'a pas tout à fait explorée, c'est la question du lecteur. Lecteur coupable. Le lecteur coupable, puisque là, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes de logique.
Donc c'est vous, Maxime Decoux, qui avez comblé cette lacune, puisque vous faites dans votre livre du lecteur le coupable.
Alors oui, effectivement, on peut penser à ce lecteur coupable. Alors Agatha Christie l'explore pas tout à fait directement. Après, ce qu'il y a, c'est qu'elle varie aussi les structures du roman à énigmes, en introduisant du roman d'espionnage parfois, du roman à suspense. Par exemple, dans Diptynègre, on n'a pas d'enquêteur. Donc, enfin, ils étaient 10. On est vraiment dans la forme limite du roman à énigmes qui se fait roman à suspense, et puis il y a une insistance très forte sur le sur les comptines. Il y a une sorte d'obsession pour les comptines chez Agatha Christie, dans Ils étaient 10, dans Cinq petits cochons, dans La maison biscornue. Enfin, il y a toute une série de romans où on observe ces comptines, et c'est sur des comptines, donc la comptine a un principe, hein, un principe de structuration répétitif et arithmétique. C'est sur ces comptines que vont se dérouler soit les meurtres, soit l'enquête, comme dans Cinq petits cochons par exemple, ou des séries de lettres comme dans ABC contre Poirot. Et donc elle crée des structures en fait à partir de là, où elle complique aussi bien la disposition, la structure de son roman que l'organisation en fait de ce qui des événements qui se sont déroulés, de sorte que ça brouille énormément les pistes, ça crée des difficultés effectivement pour le lecteur pour recomposer les morceaux, qui est face à un puzzle à reconstituer, et ça explique véritablement pourquoi Agatha Christie est devenue une romancière aussi importante aux yeux de très nombreux écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle.
Donc, notamment les écrivains des éditions de Minuit. Mais est-ce qu'on peut considérer que Agatha Christie est dans une démarche proprement oulipienne?
Alors, elle est pas, on peut pas considérer que ce soit une romancière oulipienne, dans le sens où elle n'établit pas une sorte de cahier des charges ou avec une contrainte fixée au départ. Mais elle travaille dans un genre qui est très contraint, le genre du roman à énigmes, et elle travaille sur les structures. Donc, il y a effectivement une véritable fascination des oulipiens pour la manière dont Agatha Christie traite des questions qui sont des questions qui ont trait, on l'a dit tout à l'heure, au droit, mais aussi aux différentes pulsions de mort, de vie, etc. Elle les traite de manière assez dépassionnée parce qu'elle les traite comme des problèmes mathématiques et donc des problèmes d'écriture. Il y a aussi un modèle qui revient assez souvent dans les textes d'Agatha Christie, c'est le jeu. Le jeu qui est effectué avec le lecteur, qui est effectué entre le détective et le coupable, et donc il y a donc l'image du jeu d'échecs par exemple est récurrente, et on sait l'importance des jeux de cartes et des jeux d'échecs pour l'Oulipo, parce que ce sont des organisations aussi, des manières d'organiser les textes. Et on peut penser par exemple à un roman qui s'appelle Cartes sur table, dans lequel le meurtre est commis pendant que les personnages jouent au bridge. Et l'enquête, finalement, s'apparente ensuite à une sorte de partie de bridge entre Poirot et les différents suspects. Il s'agit de jouer, finalement, carte sur table, comme le dit le titre, alors même que Poirot ne joue pas à carte sur table, puisqu'il faut ni le coupable, il faut dissimuler son jeu, et le roman lui-même ne joue pas à carte sur table, puisque là encore, il s'agit de dissimuler vis-à-vis du lecteur les véritables indices.
Mais alors justement, Maxime Decoux, est-ce que vous avez l'impression que le lecteur est crédule de ce dispositif? Est-ce qu'il a l'impression, au fond, que Hercule Poirot décèle une vérité, comme on le disait au début de cet entretien, une vérité cachée? Ou est-ce que le lecteur, selon vous, sait que tout cela est un jeu et s'en amuse aussi?
Alors, en fait, il y a plusieurs manières de lire les romans policiers. Vous pouvez les lire sans enquêter, c'est tout à fait possible. Alors, surtout des romans comme ceux d'Agatha Christie, puisque vous savez qu'à la fin, vous aurez la solution. Donc, vous pouvez les lire dans une certaine, avec un plaisir de la lecture qui n'est pas forcément le plaisir de l'enquête. Ou alors, vous pouvez entrer en rivalité avec Poirot. En règle générale...
Mais est-ce qu'on peut vraiment entrer en rivalité avec Poirot? Parce que si on ne nous donne pas les vrais indices...
Alors, dans tous les cas, vous êtes perdant. Enfin, je pense. Pratiquement, il est quasiment impossible. Je crois assez peu, vu la manière dont les dispositifs sont quand même très élaborés, qu'on puisse réellement aboutir à la même solution qu'Hercule Poirot avant la fin. Oui. Néanmoins, il y a une forme de vraisemblance. Agatha Christie écrit avec vraiment une optique très réaliste, ce qui ne sera pas le cas dans certaines réécritures du roman policier, par exemple chez Jacques Roubaud dans sa trilogie sur la Belle Hortense, qui s'amuse beaucoup de ces codes et qui justement affiche une sorte d'ironie vis-à-vis de ces pratiques d'enquête. Mais le lecteur, de toute façon, sait qu'il y a un côté fabriqué, qu'il y a un côté faux, et tout dépend de sa disposition d'esprit, mais il est tout à fait aussi possible de suspecter les conclusions qu'apporte Hercule Poirot. C'est d'ailleurs ce qu'on fait plusieurs critiques littéraires, en particulier Pierre Bayard.
Alors justement, je voulais qu'on termine par là, parce que textes, Pierre oui. Bayard quand même a réussi à prouver dans Qui a tué Roger Ackroyd que l'assassin n'était pas l'assassin
n'est pas
pointé par Hercule
celui
Poirot.
Qu'on pense. Tout à fait. Dans Ils étaient 10, de la même manière, parce qu'il pratique ce qu'on peut appeler une forme de contre-enquête, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur les failles du texte, les endroits où la démonstration en fait peut présenter des faiblesses, et ce qui permet de reconstruire une autre solution possible, sachant bien qu'il est toujours possible de réenquêter sur les contre-enquêtes. On peut réenquêter sur les contre-enquêtes de Pierre Bayard pour trouver d'autres failles et démontrer d'autres solutions.
Donc,
vous savez, il y a un plaisir un petit peu, oui, il y a une sorte de vertige de la démultiplication des solutions qui montre bien que, et ça c'est le fait que le texte d'Agatha Christie se présente comme un texte fermé, c'est-à-dire un texte qui va résoudre le mystère, alors qu'en fait, il y a plein d'accroches qui font que ce texte s'ouvre sur des tas d'autres pistes et multiplie les significations et les interprétations qu'on peut en faire. Et il me semble que c'est véritablement l'intérêt du roman policier, plus que dans une conclusion unique, c'est dans cet appel à la réflexion et à l'interprétation chez le lecteur qu'il me semble aussi
être le plus intéressant. Et bien évidemment, ça nous donne envie de relire tous ces livres d'Agatha Christie avec un point de vue différent qui est celui que vous venez de nous exprimer, Maxime Decoux. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui de ce thème de l'imposture chez Agatha Christie. Et puis je renvoie les auditeurs sur votre livre « Pouvoir de l'imposture » disponible aux éditions de Minuit. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Romain Billet et aujourd'hui à la technique, Clara Galivelle. Lundi, tout autre chose avec une semaine consacrée à Renoir, le fils, le cinéaste, pas le peintre.